Chapitre 18. Jane sortit les ciseaux de son cabas et retourna dans la salle de bain. Overton se recroquevilla sur lui-même du mieux qu'il le pouvait dans l'espoir de protéger ses pauvres attributs. Elle avait réussi à le convaincre qu'elle était capable du pire. Peut-être s'en était-elle convaincue elle-même. Un dernier point.
Lequel ?
J'en ai assez de votre attitude imbécile. Je veux des réponses directes.
J'attends.
Sera-t-il difficile d'atteindre Schenek ?
Qu'entendez-vous par « atteindre » ?
Le mettre dans une situation comparable à la vôtre et l'obliger à parler.
C'est quasiment impossible.
Rien n'est impossible. La preuve ?
Ajouta-t-elle en lui adressant un mouvement du menton.
Je ne suis pas au même niveau que lui. J'étais une proie facile. Ce ne sera pas son cas. Si jamais je m'en tire, je peux vous assurer que je retiendrai la leçon.
Le bruissement des ciseaux le rappela à la réalité.
Qu'en est-il de Schenek Technologies à Menlo Park ?
Les labos disposent de plusieurs systèmes de sécurité électronique. Des lecteurs d'empreintes, des lecteurs rétiniens, des gardes armés, des caméras partout.
Sa maison de Palo Alto ?
Vous l'avez déjà vue ?
C'est à vous que je pose la question.
Il répondit à toutes les questions de Jane. S'il ne mentait pas, le domicile du savant était une citadelle imprenable.
J'ai entendu dire qu'il avait une résidence secondaire dans la Napa Valley.
Oui, le ranch GZ, pour Ground Zero.
Quel crétin prétentieux!
Il a un sens de l'humour un peu particulier, reconnut Overton. Il y passe 15 jours par mois. Il s'y trouve en ce moment. Il y travaille tout aussi bien que dans ses locaux. Il a accès à tous les ordinateurs du labo.
Est-il plus vulnérable là-bas ?
Overton laissa échapper un rire amer. Il faudrait que vous arriviez à échapper à ces coyotes et ces rayshows. Mais vous ne passerez pas à travers. Si vous aviez tenté l'expérience avant de venir ici, vous seriez morte et je n'en serais pas là.
Parlez-moi un peu de ces coyotes et de ces je ne sais quoi.
Les rayshows.
Il prit un malin plaisir à lui décrire ce qui l'attendait si elle entendait se lancer à l'assaut du ranch GZ. On aurait pu croire qu'il s'était résolu à sa propre mort et se consolait en se persuadant qu'elle ne resterait pas en vie beaucoup plus longtemps. Convaincue qu'Overton lui avait tout révélé des secrets du ranch, elle prit une décision.
Je vais vous détacher les chevilles.
Si jamais vous essayez de me donner un coup de pied, je vous tire dans les couilles, compris ?
C'est vous qui voyez ?
Rétorqua-t-il sur un ton faussement indifférent.
Elle cisailla les liens en nylon qui lui entravaient les chevilles, avant de couper celui qui le reliait au pied de la baignoire, sans lui libérer les poignets pour autant.
Elle quitta la salle de bain, rangea ses ciseaux et se posta sur le seuil afin de le voir essayer de se relever. Ses muscles ankylosés avaient également souffert des efforts qu'il avait faits pour se libérer. Il lui fallut une minute pour ramper jusqu'au lavabo de quartz ambré, s'y agripper et se remettre péniblement debout. Les spasmes qui agitaient ses mollets et ses muscles signalaient des crampes bien réelles. Au lieu d'exagérer sa douleur, elle le vit serrer les dents et étouffer ses gémissements en soufflant comme un bœuf, en bon macho, dans l'espoir de lui dissimuler l'état de faiblesse dans lequel il était. Il s'avança sur des jambes tremblantes en s'appuyant successivement sur le lavabo, la barre de la douche, le porte-serviette et la poignée de porte. Jane recula dans la chambre en tenant son pistolet d'une seule main, de façon à lui indiquer qu'il ne lui faisait pas peur. Les dernières lueurs d'espoir achevaient de se consumer dans sa tête, mais les braises de sa colère couvaient sous la cendre, et il aurait suffi qu'elle affiche un minimum de respect à son endroit pour que le brasier de son égo se rallume.
« J'ai besoin de m'asseoir une minute », déclara-t-il en se dirigeant péniblement vers le lit.
Si vous avez choisi de vous asseoir là pour atteindre le Smith & Wesson dissimulé dans le tiroir de la table de nuit, il ne s'y trouve plus.
Elle lui désigna la chaise qu'elle avait malmenée un peu plus tôt.
Vous serez plus confortable là-dessus.
Va te faire foutre, salope.
Vraiment ?
Va te faire foutre. Vous en êtes encore aux conneries d'ado? Vous devriez vous entendre.
Je m'entends très bien.
Je ne crois pas. Et ce n'est malheureusement pas récent.
Vous n'êtes qu'un trou avec un flingue, rien de plus.
Et vous? Vous êtes quoi?
Je n'ai pas besoin de m'asseoir.
Dans ce cas, montrez-moi où se trouve votre coffre, monsieur le caïd.
Dans le dressing.
Derrière le miroir, j'imagine.
Vous savez tout, c'est ça?
Pas tout. Le dressing, immense, mesurait 4,50 m/6. Une penderie équipée de portes accueillait vestes, chemises et pantalons. Le reste était rangé dans des tiroirs de différentes dimensions. Au centre de la pièce se trouvait un banc rembourré conçu pour qu'il puisse s'asseoir afin d'enfiler ses chaussettes et ses chaussures. Un miroir vertical était fixé sur le mur du fond, entre deux placards. Elle attendit qu'il atteigne le miroir pour entrer à son tour dans le dressing. Dans la glace, il la vit saisir son arme à deux mains.
« Vous avez décidé de me tirer dans le dos ?»«
C'est une solution. »«
C'est bien un truc de femme. »«
Je devrais me vexer ?»«
Si je meurs, vous mourrez aussi. »
C'est normalement à ce moment-là que vous êtes censé m'expliquer que vos amis n'auront de cesse de me retrouver et de me couper la tête.
Vous verrez bien.
Vous n'avez pas d'amis, Billy.
Miroir, oh mon miroir.
Le miroir coulissa sur le côté et disparut derrière le placard voisin en obéissant à l'ordre que venait de lui donner Overton, ou peut-être au son de sa voix.
Un panneau en acier brossé était encastré dans le mur, contre lequel il posa son œil droit au niveau d'une lentille.
Un cliquetis de verrou se fit entendre et le panneau d'acier s'enfonça dans le plafond avec un soupir pneumatique.
« Voici votre argent. Vous n'en avez jamais vu autant, » dit-il en se plaçant devant le coffre, de façon qu'elle ne puisse pas voir son contenu.
« 500 000 $. » Il tendit ses mains attachées comme pour saisir une liasse. « Non. » voulut-elle l'arrêter. Il pivota sur la gauche en s'imaginant que la perspective de ce demi-million de dollars l'avait distraite. Il croyait agir comme l'éclair et il se trompait. Lorsque la première balle de Jane s'enfonça dans son torse, sous le bras gauche, c'est tout juste s'il avait effectué la moitié d'un demi-tour, et il tira machinalement dans une porte de placard. À l'école du FBI, au terme de plusieurs semaines d'entraînement, Jane s'était révélée capable d'enfoncer la détente avec l'index droit 96 fois en l'espace d'une minute, ce qui dépassait la norme exigée par son prof de tir. Lors d'une bataille rangée, la moindre faiblesse au niveau de la main peut se révéler mortelle. La seconde balle, venue parachever le travail de la première, déforma le visage d'Overton qui s'écroula au pied du coffre.